Detecté, parce que, excusez-moi, parce qu'elle est invisible. Nous avons besoin d'une lumière spéciale pour les détecter et d'une force spéciale pour la résister aussi. Dans certains pays, des billets de banque contrefaits circulent parfois et des machines spéciales sont nécessaires avec une lumière spéciale pour différencier les contrefaçons des vrais. Avec le péché de l'idolâtrie, vous avez besoin, je le répète, d'une lumière spéciale pour les détecter et d'une force spéciale ou céleste pour y résister. Cette lumière spéciale est les Saintes Écritures et cette force spéciale est la grâce de Dieu. Ce qui nous vient par la prédication que nous faisons maintenant, essayer d'apporter les messages des Saintes Écritures pour détecter le mal et implorer Dieu de nous donner sa grâce, sa force pour y résister. Et surtout, surtout à cause de ce que le texte nous dit, idole au pluriel qui dénote l'abondance, qu'il y a beaucoup de dangers ou que nous pouvons être attaqués n'importe où et de n'importe quelle manière, sous n'importe quel déguisement et n'importe lequel d'entre nous. L'idolâtrie utilise de nombreux déguisements. Et quand vous lisez le contexte de ce chapitre, l'idée de ce que nous avons dit est plus crédible. Regardez avec moi au verset 19 pour observer le grand danger de l'idolâtrie contre les croyants. En Jean chapitre 5, verset 19, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Remarquez ce qu'il dit Jean. Nous savons, dit Jean, c'est-à-dire des vrais croyants, que nous sommes des enfants de Dieu. Et le reste de l'humanité se trouve sous la puissance du malin. Ainsi sur la planète Terre, celle sur laquelle nous vivons, où on nous dit qu'il n'y a que deux grands groupes de personnes, les enfants de Dieu et les autres. Et le reste est sous le mal, dit l'apôtre Jean. Autrement dit, la majorité de la population mondiale est idolâtre. Par conséquent, le danger de l'idolâtrie est commun, très abondant. Que Dieu donc nous bénisse, nous éclaire pour nous libérer ou résister à ce mal. Si j'étais dans un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de fumée, même si j'ai vu léviter mes vêtements sentiront la fumée. Ainsi, si la terre entière est sous le pouvoir du malin et qu'elle nous parle d'idolâtrie, l'influence de l'idolâtrie est fréquente, constante et forte contre nous croyants. Alors, ne pensons pas à la conclusion superficielle que l'idolâtrie est juste se mettre à genoux devant une figure ou une statue en bois ou en plâtre ou en marbre. Non, c'est pire que tout ça. Ça va beaucoup plus loin. Il est remarquable que l'apôtre Jean dise aux vrais croyants de se méfier de l'idolâtrie. Ou, en d'autres termes, que même les meilleurs croyants pourraient être tentés de tomber dans le péché de l'idolâtrie. Ou que sans les Saintes Écritures, nous pourrions penser que nous allons bien, sans être vrais, penser que nous allons sur un chemin droit, alors qu'il se pourrait certainement que nous marchions sur un chemin d'idolâtrie. Donc aujourd'hui et pendant quelques dimanches, si le Seigneur nous le permet, nous étudierons un péché commun, mais plus considéré l'idolâtrie. Comment allons-nous l'étudier? Notre étude sera comme ceci. Premièrement, la nature de l'idolâtrie spirituelle. Deux, l'idolâtrie moderne et d'autres marques. Troisième, des remèdes divins pour combattre l'idolâtrie. Notre premier point, c'est la nature de l'idolâtrie spirituelle. C'est quoi la nature de l'idolâtrie spirituelle? L'idolâtrie est un péché courant dans les expériences humaines depuis la chute de l'homme dans l'Éden. Ou depuis que l'homme a écouté le serpent au lieu d'obéir à Dieu, son créateur. Mais l'idolâtrie ne se limite pas à adorer devant une statue ou une image. Cela, c'est un type d'idolâtrie que la Bible définit avec ces mots. Regardez comment le Saint-Esprit parle des idoles dans l'Épître, le 12e verset. L'Épître 5:15, versets 4 jusqu'à 8. Verset 4. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Remarquez ce que dit la parole du Seigneur. L'idolâtrie est une extension de l'orgueil humain. Autrement dit, un individu se dit, le Dieu est comme ça, il est fait et il adore. C'est donc une extension de l'orgueil humain, car il est né dans le cœur humain, tel qu'il imagine. C'est ainsi qu'il est fabriqué. Et ajoute dans le verset 5, elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gossier. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Nous appelons cela la folie spirituelle, ou simplement l'idolâtrie. Ou que l'idolâtrie est une extension de l'orgueil humain. Il y a donc beaucoup d'idolâtrie, peu importe où vous soyez. Et c'est un type d'idolâtrie, ce que nous venons de lire dans l'Épître 5:15. Mais comme je l'ai mentionné, l'idolâtrie ne se limite pas à cela. Il existe un type d'idolâtrie plus subtil que cela, plus imperceptible à nos yeux et même à notre faible discernement spirituel. En d'autres termes, que nous sommes très vulnérables à être trompés. Nous remarquons dans cette lettre de 1 Jean que l'apôtre s'adresse aux vrais chrétiens et les avertit du danger que nous sommes exposés à tomber sous la tromperie de ces mâles. Même si nous ne participons pas à cette idolâtrie rudimentaire et évidente décrite ci-dessous, il y en a une autre plus subtile et raffinée aussi. Parce que comme j'ai vu le mentionner, l'idolâtrie ne se limite pas à adorer devant une statue ou une image. Donc, c'est quoi la nature de l'idolâtrie? C'est une disposition de l'âme qui s'écarte de Dieu, le Dieu vivant et vrai, pour les remplacer par des choses créées. Je répète, qu'est-ce que l'idolâtrie? C'est une disposition de l'âme qui s'écarte de Dieu, le Dieu vivant et vrai, pour les remplacer par des choses créées. Par nature, l'homme est idolâtre. Il s'aime et aime ce monde au lieu d'aimer Dieu et sa volonté. L'idolâtrie peut prendre plusieurs formes et souvent un péché caché. Alors, une question se pose. Ça serait quoi l'idolâtrie pour un chrétien? Je veux dire, pour toi, pour moi, si nous appartenons à Christ. Maintenant, le point clé ici est de savoir d'où vient-elle et à quoi ressemble l'idolâtrie dans la vie d'un croyant. Notre Seigneur Jésus-Christ le dit par ces mots, le troisième verset. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, nous pouvons remarquer que le premier idole, c'est moi. Mon idole, c'est moi. Nous sommes donc des idoles et des idolâtres en même temps. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Quelle est la chose la plus importante pour toi? Toi-même. S'il y a des choses qui font le plus mal et auxquelles je résiste le plus, c'est quand quelqu'un pense différemment de moi et veut s'imposer. Alors, chers frères, l'idole principale, c'est moi. Je suis à la fois idole et idolâtre. Dieu est contre toute idolâtrie, car il mérite et il exige notre pleine adoration. Il est jaloux de l'amour de tous nos cœurs. C'est son premier commandement pour nous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Nous ne devrions pas avoir d'autres dieux devant lui, pas même les dieux du jeu, moi-même. Donc, de manière générale, nous avons discuté jusqu'ici de notre premier point, la nature de l'idolâtrie. Ce qui n'est pas seulement l'adoration d'images ou de statues, mais une tendance pécheresse de l'âme qui se détourne de Dieu pour les remplacer par des choses créées. Un cœur qui se vénère lui-même et se montre au lieu de Dieu et de sa volonté. Et cela nous amène à notre deuxième point sur notre prédication. L'idolâtrie moderne et autres preuves. Les historiens rapportent que l'esprit idolâtre de l'humanité a changé avec le temps. Les Grecs idolâtraient la beauté ou la beauté du corps. Sous tous ces aspects, ils ont idolâtré la figure de beauté de l'être humain. Les Romains adoraient la force, le courage. Et à notre époque moderne, nous demandons, qu'est-ce que l'idolâtrie moderne? Qu'est-ce qui est adoré dans notre monde aujourd'hui? Eh bien, ce n'est pas la beauté, ni la force, ni la science, ni la culture, ni l'art, bien que généralement cela soit toujours très apprécié aujourd'hui. Mais d'une manière particulière, qu'est-ce que l'idolâtrie moderne? Posons la question au monde moderne. Qu'est-ce qu'ils adorent? Et en particulier, demandons à la capitale du monde. Il y a une capitale du monde ou celle qui représente les sentiments de cette génération. Quelle est cette ville? New York. Alors, demandons aux citoyens de New York. Qu'est-ce que vous adorez? La prospérité. On se lève tôt, on se couche tard et pas forcément à la recherche de santé, mais à la recherche d'argent. La réponse est donc la suivante. L'idolâtrie moderne et la prospérité, en d'autres termes, l'argent. Si nous jetons un œil aux événements récents de la civilisation innovante, nous arriverons à cette même conclusion. Les progrès considérables et continus de la science, de la technologie, de l'art, de l'ingénierie, des communications et de bien d'autres choses ont été rendus possibles par les progrès d'une prospérité croissante. Ils n'ont qu'une seule cause, la prospérité du monde moderne. En d'autres termes, l'idole de cet âge, c'est l'argent. C'est l'idole de cet âge. Et c'est difficile, très difficile à détecter, mes frères. Je vous invite à lire Jérémie 44, versets 16 et 17. Où nous essayerons de prouver que l'idolâtrie moderne, dans ce passage, est la prospérité ou l'argent. Qu'est-ce que le peuple d'Israël disait? Nous ne t'obéirons à rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Ça, c'est la réponse du peuple d'Israël au prophète Jérémie. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Qu'est-ce que le peuple d'Israël disait? Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Ils disent, moi-même, je suis l'idole et je vais m'adorer. C'est ce qu'ils disent. C'est pourquoi Jésus nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et Jérémie ajoute, verset 17, « Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nous, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier. » Nous étions heureux et nous éprouvions point de malheur. Qu'est-ce qu'il dit le peuple d'Israël? Qu'ils vont offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, et nous et nos pères, et nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Et pourquoi l'ont-ils fait? Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux, nous prospérions et nous n'éprouvions point de malheur. Alors notez que l'idolâtrie est difficile à voir car ce n'est pas une question de conscience, mais d'intérêt qui semble légitime. Qu'est-ce que ça veut dire? Une question de conscience, mes frères et mes amis, est de savoir si quelque chose est bon ou mauvais. Si soit je suis cancanier, soit je ne suis pas cancanier, soit je vole ou je ne vole pas, soit je calomnie ou je ne calomnie pas, soit je suis adultère, soit je ne suis pas adultère. Ça, c'est facile à repérer d'une certaine manière, n'est-ce pas? Mais l'idolâtrie ne l'est pas, car elle est question de s'intéresser sur les besoins que nous avons. Ces gens dont parle le prophète Jérémie, ils parlent de nourriture, de prospérité, ils n'ont vu aucun mal, en d'autres termes, nos intérêts, qui d'une certaine manière sont légitimes, nous conduisent à être des idolâtres. Est-ce que c'est difficile à percevoir? Par exemple, quand est-ce que je sais que manger est de la gourmandise ou pas? Quand est-ce que je sais que manger est de la gourmandise ou pas? Eh bien, quand mon estomac est rempli au point d'avoir mal, je réalise que c'était de la gourmandise. Mais je ne m'en suis pas rendu compte avant parce que j'ai pensé que c'était un besoin de manger. Quand je sais que acheter telle ou telle chose était de l'idolâtrie ou de la vraie nécessité, quand quand après avoir acheté cette ou telle chose, je réalise que ce que j'avais avant était en bon état et ça m'était encore utile. Et maintenant, avec ce nouvel achat, je suis endetté inutilement jusqu'au cou et je ne soutiens pas la cause du Christ ici sur terre. L'effet est que c'est difficile à détecter, très difficile, parce que c'est une question d'intérêt naturel. Et que dans une certaine mesure et à un certain endroit, ils sont normaux. Mais cela peut généralement aboutir à l'idolâtrie. L'idole de la prospérité est si courante aujourd'hui qu'il existe même un soi-disant évangile de la prospérité. Il regroupe des milliers et des milliers de personnes avides de prospérité. Il y a une église au Guatemala, par exemple, qui regroupe 20 000 personnes derrière la prospérité et ils leur disent qu'elle est derrière Jésus-Christ. Écoutez ce qu'ils disent. Si vous êtes le fils du roi, alors la prospérité est à vous. Ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas entendu les paroles du roi selon lesquelles la prospérité est pour l'autre monde, pas ici. Il ne nous a pas promis de la prospérité pour ce monde. Il nous a promis, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point, mais pas que nous serions riches dans les choses de ce monde. Mais le fait est que l'idolâtrie moderne et la prospérité ou l'argent, beaucoup de gens sacrifieraient même leur âme et leur famille pour obtenir de l'argent. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi, oui, au cours de mes années de vie chrétienne et de ministère, que même des croyants professants qui se consacrent à gagner de l'argent parce qu'ils sont entièrement voués à la prospérité, à la cupidité. C'est là, comme il nous le dit, Colossiens 3:5, la cupidité qui est une idolâtrie. Et cela est soutenu par le sage Salomon quand il dit dans Ecclésiaste, chapitre 5, le verset numéro 5, Ecclésiaste 5, 3, 13 ou 12, ça dépend de la version de la Bible qu'on utilise. Salomon dit, « Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. » C'est un mal terrible, l'idolâtrie. Et nous ne sommes pas exemptés d'être contaminés par cette mauvaise influence. Donc, les richesses en dehors du Christ sont un grand danger, que ce soit sous la forme d'un marchand prospère, d'un politicien corrompu ou de quelqu'un qui surestime simplement leurs besoins quotidiens de base, cela n'a pas d'importance. Quelle est leur plus grande motivation? Gagner de l'argent à tout prix. La cupidité dont je vous ai parlé, c'est de l'idolâtrie. Et je le répète, nous, mes frères, nous ne sommes pas exemptés d'être contaminés par cette influence dévastatrice. Lorsque la richesse, les honneurs et les plaisirs sont les idoles de la tête et du cœur des hommes, ou les principaux désirs de leur estime et de leurs sentiments, ils sacrifieraient même leur âme plutôt que de perdre le monde et ses promesses de bonheur. Comme l'écrivait le puritain Thomas Watson. Thomas Watson a écrit ça. Combien y en a-t-il qui font leur objectif principal, non pas la jouissance de Dieu, mais leur propre convoitise. Ils sont comme ce cardinal qui a dit, qu'on me laisse garder ma place de cardinal de Paris, et je serai prêt à renoncer à ma participation au paradis. La prospérité, mes frères, la cupidité, en sorcelle des plaisirs, Puis vient l'état mortel jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le cœur. C'est pourquoi l'apôtre Jean exhorte les chrétiens avec diligence dans le passage de 1 Jean 2:15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le cœur humain ne peut pas aimer des choses, mes frères et mes amis. Ne peut pas aimer des choses contraires en même temps. Il ne le peut pas. Quand vous en aimez l'un, vous détestez l'autre. Le Seigneur l'avertit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et nous sommes témoins d'abondants mots de toutes sortes et types partout. Nous demandons, pourquoi y a-t-il tant de mal et de violence dans le monde? Et l'apôtre répond dans le passage numéro 7, en Timothée, car l'amour de l'argent est une racine de certains maux. Oui? Non. Car l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pensez-vous à Judas, par exemple? Alors, vous voulez me dire que c'est pour ça qu'il y a tant de violence, tant de vols, tant de corruption, etc. dans le monde? Oui, c'est ça. L'amour de l'argent. Et il y a un signe, mes frères, mes amis, il y a un signe à notre époque qui indique l'abondance de l'idolâtrie ou qui s'épanouit généralement lorsque l'idolâtrie abonde. Je le répète, il y a un signe dans notre société contemporaine que nous voyons, et à la lumière des Écritures, ce signe a tendance à abonder lorsque l'idolâtrie abonde aussi. Et quel est ce signe? Je vous invite à lire 1 Roi, chapitre 14, versets 22-24. Nous allons y découvrir ici une décomposition sociale, écoutez, qui se produit habituellement lorsque l'idolâtrie abonde. Verset 22. Judas fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et par le péché qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que ne l'avait jamais fait leur père. En d'autres termes, Judas est allé à l'extrême de la méchanceté, encore plus que ses prédécesseurs. Et pourquoi cela a-t-il été dit de Judas? Verset 23. Ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute la colline élevée et sous tout arbre vert. L'idolâtrie était abondante, très abondante. Et c'est quoi le résultat? Verset 24. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Donc, l'homosexualité ou la sodomie étant des résultats de l'idolâtrie. Quand l'homosexualité ou la sodomie devient endémique dans une société, c'est un signe qu'il y a beaucoup d'idolâtrie dans cette société. Ne le voyons-nous pas? Qui ont même allé à autoriser les mariages homosexuels? C'est une terrible folie. Où se développe cette décomposition ou cette corruption morale? Quand il y a beaucoup d'idolâtrie, mes frères. Regardez là comme c'est clair. L'abondance d'homosexualité correspond à un fruit de l'idolâtrie, c'est-à-dire que cet arbre C'est un arbre maléfique, soit dit en passant, ne pousse que là où il y a une abondance d'idolâtrie. Dans notre cas, l'idolâtrie moderne de la prospérité. Mais le fait est que vous et moi sommes exposés à la contamination. L'influence est terrible. Il y a donc un signe évident d'idolâtrie à notre époque. Et quelle est notre idolâtrie? La prospérité. L'amour de l'argent. Combien de chrétiens professant se voient offrir de venir adorer Dieu ici le dimanche, le jour du Seigneur, ou gagner 200 ou 300 dollars pour travailler, même s'ils ont tous leurs besoins comblés, mais ils préfèrent l'argent que l'adoration de Dieu, c'est de l'idolâtrie. C'est clair ce que je viens d'exprimer? Et notre Seigneur Jésus-Christ le dit encore plus clairement dans Matthieu 6, 24, le verset numéro 9, Matthieu 6, 24, quand le Seigneur nous dit « Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. » Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Nous allons demander au verset de Matthieu 6, 24, quel est le plus grand concurrent de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'adoration et de la louange de Dieu sur cette terre? Les papistes? Non. Les musulmans? Non. Qu'est-ce que c'est? L'argent. Christ met l'argent ici comme le plus grand concurrent. Il ne dit pas, vous ne pouvez pas servir Dieu et les musulmans comme les plus grands concurrents, ou Dieu et les papistes comme les plus grands concurrents, mais Dieu et les dollars. Le plus grand concurrent de l'amour de Dieu, mes frères, pour nous, c'est l'argent, la prospérité. En d'autres termes, que sur cette terre, bien-aimés et chers frères, nous n'avons que deux options d'amour. Ou nous aimons Dieu, ou nous aimons l'argent. Il n'y en a pas d'autre. L'idolâtrie de cette époque est la prospérité. Nous sacrifions n'importe quoi pour cela. C'est un terrible danger. L'apôtre Jean l'a dit-il il y a 2000 ans, et aujourd'hui c'est plus dangereux. Donc, à la lumière de cela, le cœur humain est très, très enclin au péché de l'idolâtrie. Les croyants, frères bien-aimés, ne sont pas exempts de ces mauvaises influences. Quand vous lisez la lettre de l'apôtre Paul aux Galates, parlant des autres, de la chair, l'une d'elles est celle-ci, l'idolâtrie. C'est naturel à nous, comme s'il l'avait dit. Un corps vivant respire, un cœur naturel produit de l'idolâtrie. Les deux choses vont de pair. J'ai une question pour vous. Comment savoir si la prospérité matérielle me trompe? Comment savoir si j'adore l'argent? Comment le sais-tu? Il y a un dicton universel de William Bates. Et il s'applique à cette occasion. Il a écrit la même chose pour répondre à cette même question et dit « Quand la séparation est si amère comme la possession est si douce. » Je répète. « Quand la séparation est si amère comme la possession est si douce. » Si une personne a approfondi ses sentiments dans les choses du monde, la simple idée de les perdre lui enlève le sommeil. Écoutez, ne pas les perdre, mais juste l'imaginer. Elle vole sa tranquillité, elle les garde réveillés. À minuit, il pense, « Oh, j'ai une nouvelle voiture !» Et s'il la vole, non. Et il ne dort pas. Mais s'il s'agit des choses célestes, mes frères, par exemple, que nous ne pouvons pas se rencontrer à cause de la situation actuelle de la pandémie, ah, ce n'est rien. Ce n'est rien. Frère, comme il est regrettable que les églises ne se réunissent pas, même aujourd'hui, ne se rassemblent pas, même si elles peuvent le faire. J'en connais une ici à Montréal, à Pierrefonds, qui fait comme ça. Si c'est perdre votre emploi, oh non, quelle tragédie. Mais si c'est perdre Christ, ah, ce n'est rien, c'est l'idolâtrie, mes frères. Une illustration. Si vous prenez un morceau de tissu, vous mettez de la colle dessus et vous le collez sur vos cheveux jusqu'à ce qu'il sèche. Quand il sèche, essayez de le décoller. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire mal. Et pourquoi ça va faire mal? Parce que c'est collé. Les choses que vous tiennent à cœur, rien que l'idée de les supprimer fait mal. Mais combien d'entre vous ne pensent pas de la même manière avec Christ? Prédicateur, voulez-vous dire alors que nous sommes pleins d'idolâtrie? C'est précisément ce que nous voulons dire. Cela nous fait plus mal de perdre 200 dollars que de perdre l'amour du Christ. Il y a beaucoup d'idolâtrie. Donc, quand vous avez l'idée de perdre quelque chose qui vous enveloppe et qui vous entoure, et que vous perdez le sommeil, il y a beaucoup d'idolâtrie. Je ne dis pas que vous n'êtes pas un croyant, parce que le croyant peut tomber dans l'idolâtrie, mais qu'il est très regrettable d'y tomber, et nous devons rapidement nous repentir et nous tourner vers notre seule vraie source de satisfaction et de joie, qui est le Seigneur. Maintenant, si l'idée de la perdre vous vient et vous dites, vous répondez comme Job, eh bien, si Dieu a donné et Dieu a enlevé, amen. Ça, ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est une tentation que vous avez résolue avec votre foi en Christ. Ce sont deux choses différentes. C'est compréhensible ça? Et l'un des exemples bibliques d'un signe d'idolâtrie est la femme de Lot. Elle aimait profondément la prospérité de Sodome. Les hommes devaient presque la porter, la forcer à sortir de Sodome. Mais quand ils l'ont émené, on a découvert où était son amour, que ce n'était pas Dieu. Donc elle ne pouvait pas obéir au Seigneur en lui interdisant de regarder en arrière. Et l'Écriture dit, la femme de Lot regarda derrière elle et fut changée en une statue de sel. En d'autres termes, cela ne fait tellement mal à personne de perdre les choses du monde à moins de les aimer. Je vais vous le dire d'une autre manière. Avec l'espoir que Dieu nous ouvre les yeux et qu'il nous l'aimons davantage. Écoutez ceci. Si vous croyez que tous vos problèmes peuvent être résolus avec de l'argent, vous êtes un idolâtre. Car seul Dieu peut le faire. Demander à des créatures ou des choses créées de faire quelque chose que seul Dieu peut faire est de l'idolâtrie. Parce que vous enlevez Dieu et mettez une créature à sa place. Que Dieu nous aide. La fin de chaque être humain est la suivante. Glorifiez Dieu et réjouissez-vous en lui pour toujours. Ainsi, se réjouir ou se glorifier davantage dans l'argent qu'en Christ ou en Dieu, c'est un synonyme d'idolâtrie. Nous devrions prier, demander à Dieu, Seigneur, donne-moi le cœur de Job. Qu'est-ce qu'il a dit Job dans le verset numéro 11? L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. que le nom de l'Éternel soit béni. Et pour finaliser, je vais vous donner 12 applications. Première application, frère, l'idolâtrie, c'est un péché qui envahirait votre esprit petit à petit, pas rapidement. Pensez à ça. L'idolâtrie est un péché qui envahirait votre esprit petit à petit, pas rapidement. Écoutez ce que dit le prophète Miché, dans le chapitre 2, verset 1. Malheur à ceux qui méditent le mal et trament des méfaits alors qu'ils sont couchés. Au point du jour, ils vont les accomplir en profitant de leur pouvoir. Autrement dit, ils planifient, ils se couchent, ils continuent de penser à la même chose, puis quand l'occasion se présente, ils exécutent. En d'autres termes, il est venu petit à petit, lentement. C'est de l'idolâtrie, selon Miché 2.1. Pour cette raison, l'apôtre Jean nous exhorte, petits enfants, gardez-vous des idoles. Ce qui nécessite des soins et une attention permanente, tout comme un gardien de banque qui surveille ses installations. Au moindre bruit, le surveillant, il va et découvre s'il est ici ou là. Il s'en soucie, il a un travail de gardien, il ne dort pas. Et de quoi devrions-nous nous soucier le plus alors? Ce dont nous devons nous préoccuper le plus, mes frères, n'est pas une question de conscience dans celle de l'idolâtrie, mais une question d'intérêt. L'idolâtrie intervient dans notre intérêt plutôt que dans notre conscience. C'est difficile à détecter, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Comment savoir si les vêtements que j'ai sont suffisants ou pas? C'est difficile. Pareil avec la nourriture. Comment puis-je réaliser que ce que j'achète l'épicerie est suffisant pour la semaine et que je n'achète pas compulsivement? Simplement pour garder dans le frigo, par exemple. Ce que j'ai mangé suffit à rétablir ma force physique et non ma gourmandise? Comment savoir ça? Et ainsi de suite avec d'autres choses. L'idolâtrie intervient pour nos intérêts au-dessus de nos besoins. Les grands bénéfices et la piété, dit l'apôtre Paul, accompagnés de contentement. Que Dieu nous aide à pouvoir répéter avec les psalmistes dans le verset 13, « Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Ou que m'approcher du Christ est le bien, c'est le vrai bien. Pensons à ce verset. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Ou me rapprocher du Christ, c'est le bien, c'est le vrai bien. Par conséquent, nous le répétons, si nous avons quelque chose à prendre en charge, ce sont nos désirs, nos intérêts, c'est ce dont nous devons nous occuper. C'est là la plus grande œuvre ou travail, car elle entrera petit à petit, lentement, et n'entrera pas vite. Et toujours, deuxièmement, en prière. Mettez sur votre liste de demandes, Seigneur, délivre-moi de l'idolâtrie, sauve-moi de mes propres pensées, apprends-moi, ô Dieu, à faire ta volonté. Et pourquoi? Parce que tu es mon Dieu, tu es mon Sauveur. Et la deuxième application, si vous me demandiez quel est le message de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, je ne vous dirai qu'une chose, la bonté de Dieu. Dieu a été bon. Dieu nous avertit que l'idolâtrie augmente d'une manière disproportionnée et abondante. Et aujourd'hui, dans sa bonté, il est venu à nous et nous a parlé, gardez-vous ces idoles. Méfiez-vous de l'idolâtrie, parce qu'il veut nous faire du bien. Il veut que nous ayons une large entrée dans le royaume des cieux. Il veut nous donner son salut de grâce. Le message de Dieu, chers amis, nos enfants, est donc que Dieu est bon. Maintenant, écoutez quelques choses que Dieu dit de sa bonté, dans les derniers versets. « Ô méprisais-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Écoutez quelque chose que Dieu dit de sa bonté. La bonté de Dieu vous guide vers la repentance. Ainsi donc, si vous avez vu la bonté de Dieu aujourd'hui, l'étape suivante est votre repentance et votre conversion au Seigneur Jésus-Christ. Si cela ne se produit pas, c'est que vous ne l'avez pas vu. Vous pensiez l'avoir vu, mais non, parce que la bonté de Dieu conduit à la repentance. Quand on voit la bonté de Dieu, on est amené à la repentance. Alors, j'ai fait quoi? Bien, là, à ta place, dis, Seigneur, tu m'as parlé, j'ai certainement péché, je suis un idolâtre, je n'étais pas aimé, j'ai plus pensé à moi, à l'argent qu'à toi, à la prospérité de ce monde. Pardonne-moi pour ce que ton Fils Jésus-Christ a fait sur la croix du calvaire en payant pour les péchés de ceux qui se repentiraient et lui feraient confiance. Seigneur, tu es mon Dieu qui se plaît à pardonner. Ta joie est de sauver, Seigneur. Alors, où tu es, humilie-toi et implore le Seigneur pour son pardon. Seigneur, fais-moi naître à nouveau, fais de moi un de tes enfants, afin que je ne sois plus du monde et que sous les ténèbres et sous la puissance du malin, sauve-moi, Seigneur, et il vous sauvera. Amen.